et quelques spectacles à aborder avec vous. Et tout de suite, l'Oiseau Mouche, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie, mais ça fait 40 ans qu'elle existe, et c'est une troupe permanente de 23 comédiens professionnels en situation d'handicap mental. Alors il faut bien dire qu'à ce jour, c'est vraiment le seul projet, la seule compagnie unique en France qui a des comédiens professionnels et en situation de handicap mental. Une compagnie pour moi à soutenir, parce que c'est vrai que c'est toujours très compliqué dans le monde du théâtre d'aborder la maladie mentale et sa représentation, en tout cas toujours questionnée. Donc voilà, c'est une compagnie moi qui me touche, qui fait un travail très intéressant. Là je ne vais pas vous parler de tous les événements qui vont se produire jusqu'au 10 juin, mais c'est à la Maison des Métallos, et voilà, j'en profitais juste pour faire ce petit appel. Soyez curieux, allez sur le site de la Maison des Métallos ou tapez la compagnie L'Oiseau Mouche, et vous allez recevoir tout le programme. Et donc tout de suite, je retrouve Mélina et Louise qui vont nous parler du Loup des Steppes, mais d'abord cette compagnie qui s'appelle Incarné.
Alors déjà, Incarné n'est pas une compagnie, et ça on tient à le faire valoir, parce que ce regroupement, on le souhaitait alternatif. Donc ce regroupement date de 2014, autour d'un premier projet que j'avais dirigé, Ce qu'il nous reste, et très vite on a eu des ambitions beaucoup plus grandes que celles d'une compagnie à direction artistique. Donc à Incarné, on produit, on diffuse des univers artistiques distincts et émergents. Pas seulement dans les arts vivants, on s'attaque à l'audiovisuel, bientôt à l'écriture, avec des projets de revues virtuelles et d'articles. Notre activité s'étend aussi à la formation,
ouais.
Et surtout on est en plein développement de l'événementiel. Avec cette activité-là, on souhaite donner une alternative pour les jeunes émergents, pour qui on aimerait faire un peu de place dans le monde de la culture.
Alors effectivement, là, vous parlez d'un collectif, donc ça me paraît, vous êtes nombreux pour faire tout ce genre d'événements, formations. Comment vous vous organisez dans votre collectif ?
Alors à l'heure actuelle, on est une quinzaine.
Oui.
Ça, c'est les forces de travail de l'association même, mais au sein de chaque univers artistique, les créateurs sont amenés à travailler avec d'autres partenaires, et tout ce réseau-là crée un vivier assez conséquent, autour duquel on crée des passerelles, on crée des collaborations assez inédites. Par exemple, Louise n'est pas membre d'Incarné, elle est membre du Loup des Steppes.
C'est ça, moi du coup je suis arrivée sur le projet, je suivais déjà l'activité de l'association depuis le début, et en fait très rapidement on se sent partie, voilà, comme tu disais, d'un vivier, d'une ébullition, donc ça m'arrive de dire je représente Incarné sans avoir besoin de faire partie, d'avoir la carte de membre, fondateur ou organisateur, simplement c'est une sorte d'univers commun.
D'accord, et donc vous vous êtes rencontrés, c'est-à-dire dans une idée de... vous connaissiez leur spectacle et vous avez voulu travailler avec eux, ou vous créez des auditions, comment s'organisent les réflexions de travail, hein?
Bah, chaque univers artistique est autonome. C'est-à-dire, moi-même, en tant qu'univers artistique, j'arrive avec mon projet que je soumets en disant je vais travailler avec telle personne, j'aurai besoin de tel calendrier, tel moyen de production, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour mettre les forces de travail, est-ce qu'il y a de la place dans le calendrier de Incarné. Et donc Louise, à ce titre, a été tout simplement, c'était une rencontre entre elle et moi pour,
d'accord,
en tant qu'actrice pour le Loup des Steppes.
Et voilà, tout simplement.
Tout simplement.
Et vous vous êtes rencontrés de par votre formation ? Parce que résultat, c'est quoi ? Au hasard du bonheur, vous vous êtes croisés dans la rue. C'est-à-dire, comment c'est fait ? J'en profite aussi, parce que comme on est à la radio, il y a des personnes qui nous écoutent et qui essaient de savoir aussi comment se créent, comment se rencontrent les personnes et arrivent à rentrer dans des projets.
Ben, tout simplement, moi j'étais amie avec la personne qui a créé la musique du premier spectacle de Mélina. Donc Mathieu Husson, son pseudo c'est donc Morse, et on se connaissait par le conservatoire de Pantin, et donc j'ai été amenée à fréquenter du coup l'équipe de Ce qu'il nous reste, et donc Mélina, et donc Incarné, et donc on s'est rencontrés comme ça, et un jour Mélina m'a dit qu'elle cherchait des comédiens pour son prochain spectacle, et voilà.
Et donc ce spectacle est né il y a quelques années, il est tout neuf, tout récent.
Non, ça fait déjà 2 ans qu'on est parti à l'aventure. Faut dire qu'il a un format un peu spécial qui nous amène à être toujours, encore aujourd'hui, en travail, tout en continuant à représenter de manière très régulière. Parce qu'on travaille en grande partie l'immersif, et la spécificité d'un travail en immersif, c'est la nécessité de représenter constamment. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le travail bloque, sans confronter à la réalité d'un public, à la réalité de ses réactions. À chaque expérience, on tire des nouveaux enseignements, et c'est comme ça qu'on avance sur la partie immersive, en tout cas.
Et donc, ce spectacle relève quand même de beaucoup de comédiens aussi, d'intervenants. Comment ça se gère, ce groupe-là, au plateau ?
Ça se gère. Déjà, pour la partie immersive, ils travaillent beaucoup en autonomie. Donc, nos séances de travail sont réparties entre des plages d'autonomie. Et moi, j'alterne entre plusieurs petits groupes qui sont en train de travailler. Ils font des expériences les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'on alterne et, et certains deviennent publics pour le travail. Donc, il y a une vraie force de travail, une vraie force motrice au sein de ce groupe.
Et vous n'avez pas de lieu officiellement pour répéter, donc c'est-à-dire c'est à la débrouille
Là, on est en fait, il y a un an, on a découvert le festival Ouverture Utile, d'ailleurs, qui est en train de se jouer. Donc, c'est un festival organisé par le collectif InterSquat. Et via ça, on a découvert un lieu dans lequel on a beaucoup répété. Donc, d'abord, c'était la crèche, et puis le Clos Sauvage. Et là, on est en train de passer au nouveau Clos Sauvage. Donc, des lieux qui sont ouverts et tenus par le collectif Stendhal. Donc, c'est des lieux alternatifs qui nous permettent de répéter gratuitement, de rencontrer aussi d'autres jeunes compagnies qui font la même chose que nous, qui répètent aussi là-bas, de voir des spectacles de créateurs émergents. Donc, ouais. C'est chez eux qu'on répète beaucoup.
Il faut dire qu'ils ont vraiment changé la face de plein de jeunes compagnies. Mais pour le côté folklorique aussi, on a énormément répété chez moi. Je dis ça parce que ça a été très important dans notre construction. C'est vrai que, en fait, dans un processus où il faut travailler autant, c'est vraiment toujours une pénibilité, une charge mentale très lourde de trouver des lieux.
Ben oui. C'est une vraie difficulté, effectivement, enfin, de partir d'un spectacle sans financement, c'est toujours très difficile, et les lieux, c'est ce qui coûte le plus cher, en tout cas en location. Et cette idée, alors, du Loup des Steppes, parce que vous n'en êtes pas à votre première création, d'où vient-elle ? Peut-être que vous avez un petit parcours sur vos créations, et qui vous a amené au Loup des Steppes ?
Alors la première création, Ce qui nous reste, c'était une forme de théâtre physique et esthétique composée de tableaux, donc il n'y avait pas de fable, c'est vraiment un enchaînement d'images. Et suite à ce spectacle et à cette difficulté à diffuser un spectacle, notamment parce que Ce qui nous reste, il y avait 13 personnes au plateau, la première question, ça a été comment chercher une économie alternative du spectacle vivant et comment réussir à ouvrir le spectacle à la rencontre et à la confrontation, puisque c'est vraiment réussir à confronter le spectacle à des gens qui ne connaissent pas le théâtre. Et notre réponse avec le Loup des Steppes, ça a été le milieu de la fête. C'est-à-dire que ce spectacle est construit pour s'intégrer directement à des événements festifs.
D'accord. Donc là, par exemple, le défi d'Avignon, le théâtre du Rempart, hein, c'est ça, vous allez jouer. C'est un lieu quand même de convention théâtrale. Est-ce que vous allez devoir changer dans la scénographie, des choses comme ça ?
Alors, bon, déjà, pour resituer au-delà de la partie immersive, on a quand même construit un spectacle sous une forme classique. Inspiré du cabaret, donc il y a un côté très chaud, on s'inspire beaucoup de codes de divertissement, tout en alliant une force poétique à tout cela. Et dans le cadre du spectacle, par exemple, il est scindable, c'est-à-dire que dans un cadre festif, on peut très bien couper et directement plonger dans la nuit, plonger dans un DJ set, mais c'est très fortement possible de le représenter tout simplement en tant que format théâtral classique. Alors oui, on va en profiter pour bouger un tout petit peu cette structure-là, mais on va être obligé de rentrer dans des clous puisqu'on a un créneau.
Ben oui.
Un créneau avec un temps d'installation limité, un temps des installations limité. Donc on va forcément sortir un tout petit peu le théâtre de ses murs, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une proposition d'immersif dans les parades d'Avignon si nombreuses.
Oui, c'est vrai qu'on reviendra sur le festival, mais c'est vrai que ça peut être un concept intéressant pour le festival. Mais par rapport à votre spectacle en lui-même, sur le thème, parce que là on parle beaucoup de la forme, ce choix de ce personnage-là, Harry Haller, peut-être reprendre un petit peu le résumé pour les personnes qui ne connaîtraient pas le Loup des Steppes.
Tout à fait. Déjà, je voulais simplement préciser que c'est vrai que c'est la forme qui a donné l'impulsion à tout ce procédé. Et puis, le Loup des Steppes, comme beaucoup de personnes, pour moi, ça a été un roman de jeunesse, un roman de développement personnel. Ça a été un roman écrit en 1927 par l'auteur allemand Hermann Hesse, qui retrace en fait le parcours initiatique d'un homme, Harry Haller, qui, enlisé dans la médiocrité du quotidien, peine à retrouver la trace d'un idéalisme, l'espoir de la vie. Donc au bord de la mort, il va rencontrer une jeune femme et puis d'abord réapprendre à vivre, à manger, il va avoir une maîtresse, à danser, à vivre d'un point de vue charnel. Et puis à partir de là, il va rentrer dans un monde presque psychédélique, celui du théâtre magique, dont chaque porte ouvre un aspect de son âme. Et cette fable-là, évidemment, c'est le côté théâtre magique qui avait directement accroché. Pour une adaptation
théâtrale.
Oui. Exactement.
Oui, je comprends l'idée. Et comment vous avez, enfin je dis vous parce que je parle du collectif aussi, hein, mais toi Louise, comment tu t'as perçu la proposition au départ? T'as tout de suite compris ce que vous alliez faire ou comme elle parle d'un travail constant?
Alors déjà, je pense que la première chose que j'ai fait en rentrant dans le travail, c'est de lire le roman. Et non, mais du coup, c'était ma première porte sur qu'est-ce que ça va donner au final. Et c'est vrai que le théâtre magique était assez impressionnant. Donc voilà, Harry rentre dans un lieu où dès qu'il pousse une porte, il peut vivre une expérience initiatique. Donc ça va être par exemple revivre toute sa vie amoureuse et refaire ce qu'il n'a pas pu faire, ou jouer avec les personnages du monde comme si c'était un jeu d'échecs. Donc des choses qui semble très attrayante, mais à faire théâtralement, ça semblait du coup très difficilement conceptualisable juste en lisant le livre. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'on s'interroge beaucoup sur nos propres on appelle ça nos mythologies,
ouais.
C'est-à-dire les images communes qu'on a donc tous dans la tête par rapport à notre monde et qui nous sont chères. Et on essaye donc de jouer avec, de voir comment on peut les distordre, les poétiser, les rendre humoristiques, comment on peut inclure le spectateur dedans. Pour pouvoir vraiment jouer ensemble avec. Mais c'est vrai que la première fois qu'on a fait le bal du loup, donc l'événement dans lequel on présente le théâtre magique, je me suis dit waouh, si il y a un an j'avais su qu'on allait faire ça, déjà que j'étais assez enthousiaste au début du projet, là j'aurais vraiment sauté partout.
On va en profiter pour écouter un extrait du spectacle Le Loup des Steppes, mise en scène par Mélina Desprez, pardon.
Aujourd'hui, moi, Harry Haller, je décide de prendre la parole pour dire non. Non au bruit sec des mains d'ouvriers qui fabriquent les armes. Non au café tiède le matin en entendant que ce n'est la faute de personne. Ni le Kaiser, ni les politiciens, ni les industriels, ni les médias, personne n'a à se reprocher. Seulement, il y a notre guerre vers laquelle nous courons les yeux fermés. Il n'est pas trop tard que chaque peuple, que chaque homme s'examine. Il voit combien par ses manquements, par ses habitudes, il est lui aussi responsable de la guerre et de la misère du monde. Sinon, l'inertie, l'effroi. Les murs entre les gens, les sables mouvants de la fainéantise et de la bêtise. Résistez. Refusez qu'on vous rende mécontent. Jour après jour, on vous traque. Et le but de tout ça est une nouvelle fois la guerre. Une nouvelle boucherie. Tout le monde pourrait le comprendre s'il ne prenait ne serait-ce qu'une heure de son temps pour y penser. Je suis Harry Haller et je suis pacifiste.
Vous venez d'entendre un extrait du Loup des Steppes qui va se jouer au Théâtre des Remparts au Festival Off d'Avignon à partir du 6 juillet. Et nous sommes en compagnie du collectif Incarné. Et donc voilà, on vient d'entendre effectivement un petit extrait avec un texte assez profond quand même. Donc résultat, vous passez. Le spectateur, vous essayez de le mettre dans une situation entre le divertissement et le désenchantement, la perception, le doute dans ce qu'il perçoit. Quelle est l'idée pour le spectateur, lui ? Qu'est-ce qu'il pourrait recevoir par rapport à ça ?
L'expérience du spectateur, on la souhaite très vive, on la souhaite très énergique, en tout cas dans le spectacle. On passe très facilement du rire aux larmes. Le spectacle est construit comme une grande farce guignolesque, puisqu'on a raccourci la fable de l'histoire en un jour. C'est l'histoire où Harry Haller va se confronter à son propre suicide. Le spectacle commence, Harry Haller est accroché à son rasoir, il rate son suicide et s'ensuit cette montagne russe entre le rire et les larmes, la tentative entre la vie et la mort et sa résolution. Donc,
Oui, souvent les retours qu'on a eus, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont très, voilà, sur les codes du cabaret, est-ce que vous êtes chaud, les gens qui applaudissent, etc., voilà, la musique entraînante, etc., et des moments comme ce qu'on vient d'entendre avec des textes qui sont du coup tirés du roman, hein, de Hermann Hesse, donc qui ont été réécrits bien sûr par Mélina Despretz et Adrien Sandrin, mais qui sont à la base quand même issus d'une écriture très sombre. Et donc il y a pas mal de dialogues, de discussions. Il faut donc mourir, quoi. C'est la question. Est-ce qu'il faut mourir ? Qu'est-ce qui nous tient en vie quand l'avenir s'annonce entre guillemets forcément sombre, parce qu'il y a quand même la Seconde Guerre mondiale qui arrive là, dans tout ça.
Alors oui, c'est vrai que vous parliez là de l'adaptation des choses comme ça. Par rapport à l'équipe technique, parce que là je suis désolée, on a un petit souci, on peut pas vous diffuser un extrait musical qui s'appelle Le Globe, qui fait partie intégrante de votre spectacle et qui me semble a été créé spécifiquement pour votre spectacle. Peut-être vous voulez aborder aussi tout ce travail là fait par une équipe, c'est pas simplement des comédiens qui jouent.
Oui, alors moi j'aime travailler avec des créateurs originaux pour tous les domaines du spectacle, donc on a travaillé pour le cas du compositeur original Mathieu Husson. Toute notre recherche a été de connaître, de se placer à l'ambiguïté entre la musique populaire et la musique sacrée, puisqu'il y a cette dichotomie constante dans le roman. On peut écouter toute la composition du spectacle, d'ailleurs, sur son SoundCloud, à Mathieu Husson.
À noter, il faudra le mettre sur le Facebook, mais je pense sur votre site aussi, peut-être il y a un lien.
Non. Vers son SoundCloud, oui. À vérifier.
D'accord. Oui, donc il y a tout un univers que vous apportez qui est plutôt complet pour le public, parce que c'est toujours difficile, hein, à Avignon, comme vous dites, il y a quand même énormément de spectacles, donc comment il peut se repérer, lui, pour faire le bon choix ? Donc ce serait quand même 21h57, je ne me trompe pas ?
Tout à fait.
Donc c'est plutôt un octambule. Et voilà, vous dites que vous allez faire quelques parades, des choses comme ça. Vous allez prévoir quand même d'être un petit peu visible dans les rues.
Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu, parce que évidemment, le Paris d'Avignon, c'est aussi un pari non seulement de rencontre du public, mais un pari de rencontre des professionnels et surtout un enjeu économique, il faut pas se le cacher, qui est assez majeur. Donc on est très mobilisés pour cette aventure.
Et oui, malheureusement, c'est un peu ce qu'est devenu le festival. Je voulais avoir une petite parenthèse, un petit clin d'œil, parce qu'il faut... Oui, tout ce que vous venez de dire est totalement juste, et pourtant c'est pas comme ça qu'il s'est créé, ce festival off. Une petite pensée quand même pour Benedetto, je sais pas trop si vous vous rappelez, mais quand même une fois que le IN a été créé en 47 par Villard, avec deux, trois spectacles et rien du tout, et l'idée était de la décentralisation, hein, donc toute l'époque de Jean d'Asté, où on espérait, où on souhaitait que les créations arrêtent de se faire à Paris et que c'était plutôt en France que tout se jouait. Bon, ben là, Avignon est devenu un peu l'entonnoir de Paris, si on peut dire. Et effectivement, les professionnels, ils font leur marché. Maintenant, il y a aussi, il faut pas, voilà, il y a un festival qui est l'un des plus grands d'Europe. On le dit, hein, le plus grand théâtre à ciel ouvert européen, qui invite toutes sortes de compagnies, que ce soit de la danse, du chant, du théâtre. Et donc, oui, comment se retrouver dans ce festival-là ? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ceux qui tenteraient l'aventure? Je vous avoue, c'est toujours très compliqué, même pour nous, pour faire attention quels sont les bons spectacles à aller voir et pas aller voir. Je pense que, comme vous dites, l'important dans ce festival, c'est qu'il faut faire attention au côté commercial, parce que maintenant, il y a effectivement beaucoup de productions, il n'y a pas tant de comédiens que ça, et qui fait plutôt des spectacles courts sur de l'humour. Je ne dis pas que je suis contre, mais c'est peut-être en qualité théâtrale moins approfondie, alors que oui, il y a toujours des collectifs, il y a toujours des jeunes compagnies qui essaient, parce que pour vous, c'est votre premier Avignon aussi.
Tout à fait.
Voilà, qui essaie de sortir de là. Donc, je pense que ça se fait dans l'ambiance des rues aussi. Il y a être vigilant au capital sympathie des compagnies. Il y a tout un rituel, hein, vous le verrez. Alors, évidemment, la maison du Off aide clairement à vous repérer. Donc moi je parlais de Benedetto parce que lui il a créé une espèce de contrepoint du festival IN, mais il n'était pas opposé, hein. Maintenant le IN, le OFF sont très séparés, mais c'était pas le cas au départ. C'était plus de dire bon ben profitons du fait qu'il y a un IN et quelques personnes connues pour que le public profite, lui, de compagnies moins expérimentées. Et ça a très bien fonctionné. Après, malheureusement, je ne sais pas, c'est pas moi, le côté politique a fait que le OFF a voulu se sortir un petit peu du IN pour mieux s'identifier. Alors là, maintenant, ça devient même un petit peu problématique parce que quand le IN se termine, je crois vers le 27 juillet, il reste encore 4 jours dans le OFF, les rues se vident. Donc voilà, on espère une réconciliation. On a le 51e festival. Il me semble, Mélanie, que toi, tu as eu l'occasion de faire le festival OFF quelques fois.
Par deux fois, oui. C'est une sacrée expérience et exactement comme tu le disais, les derniers jours sont les plus éprouvants pour les compagnies parce que on se tracte entre nous et on est à la recherche du public.
Oui, c'est ça. Et donc là, moi j'ai fait, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu dans le IN ce qu'il y a, mais moi j'ai fait un petit de quelques spectacles. Alors je vous avoue que les Thomas Joly, Julien Gosselin, les amis d'Olivier Py sont bien présents. Non, mais j'exagère, mais c'est toujours un petit peu les mêmes quand même chaque année qu'on aura l'occasion de voir à l'Odéon. Moi j'ai fait un petit clin d'œil à Chloé Dabert qui va jouer au Cloître des Carmes, un Iphigénie, et je pense que ça va avoir de l'intérêt. Bon, on reste sur le texte, hein, c'est pas une adaptation coupée, des choses comme ça. Moi déjà ça me plaît que le texte ne soit pas trop écorné de racines. Et en même temps, si vous n'avez jamais vu le Cloître des Carmes, c'est quand même un très très bel endroit que Villard a pris, hein, qui est bien au IN, juste à côté du théâtre de Benedetto, qui était pour lui faire concurrence à l'époque. Et puis j'ai aussi un petit clin d'œil, alors excusez-moi pour le nom du metteur en scène, mais le titre c'est « Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète ». Et c'est Gurshad Shaeman qui, lui, va jouer au gymnase du lycée Saint-Joseph jusqu'au 16 juillet, et où là, on parle de paroles d'exilés. Alors, je sais que c'est le thème en ce moment, c'est toujours très compliqué. Il y a pas mal de choses qui se lancent sur ces thèmes-là. J'avais repéré Migrant de Matéi Wisneck en écriture. Je vous parlerai de Anguille Souroche aussi qui se jouera au TGP. Moi, je pense que il y a quand même des sujets difficiles et certains metteurs en scène qui arrivent à les aborder sans rentrer dans la colère, dans l'amertume. Donc, je pense, je vous le conseille. On retrouvera Gurshad, excusez-moi pour le nom, Shaeman aussi à la commune l'année prochaine, qui travaillera encore une fois aussi avec des collectifs d'exilés. Vous avez des petites choses sur le IN cette année, rien d'exceptionnel pour vous? Mais moi, je pose autour de la table, il n'y a pas d'obligation de réponse, hein, parce que c'est quand même, je le redis, le festival, un gros, gros sac de spectacles. Donc, on en a pour tous les goûts, ne l'oubliez pas. Et moi, je voudrais aussi aborder donc un petit peu avec Mélanie son spectacle, mais qui ne sera pas à Avignon, parce que nous sommes bien à Paris.
Exactement.
Et qui se joue en ce moment, et qui s'appelle « Joyeuse fin du monde », donc théâtre des Blancs-Manteaux.
C'est
et
ça.
Donc là, tu joues une comédie de Michael Lyon.
Voilà, c'est ça. Donc, Joyeuse fin du monde, c'est une comédie à deux personnages, tout public, et donc qui va se jouer au Théâtre des Blancs-Manteaux à partir du 11 juin, tous les lundis soirs à 21h. Et donc, que dire de cette pièce ? Joyeuse fin du monde, c'est l'histoire tout d'abord d'Alex, une survivante à la fin du monde, hein, car on est dans un univers post-apocalyptique. Et donc c'est de sa plus grande fierté d'avoir réussi à échapper à toute cette mort universelle, on va dire. Sauf qu'en fait, elle va tomber sur Lamine. Lamine qui est un homme un peu gauche, un peu pleutre, mais profondément humain, et qui, lui, a réussi à s'en sortir par chance. Et donc, Joyeuse fin du monde, ça parle de la cohabitation de ces deux personnages-là qui sont totalement différents. Ça brise un peu aussi les codes des relations hommes-femmes. Et donc, ils vont également essayer donc de cohabiter malgré leurs différences, et aussi de réfléchir à si jamais on devait refaire une société, à quoi elle ressemblerait. Donc du coup, on touche à la religion, à la différence hommes-femmes, à la politique, la démocratie. Et donc, c'est tout...
Alors j'ai un petit doute, ça reste de la comédie ou on est...
Ça reste de la comédie, hein. C'est très accessible, donc tout public comme je disais, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'humanité, mais c'est une comédie avec du fond, voilà.
D'accord, et puis là je vois que donc vous êtes deux personnages, hein, simplement,
deux personnages
sur scène, et donc il y a une alternance, hein. Comment s'est fait le travail de création?
Alors le travail de création, il faut déjà savoir que c'est une pièce qui a déjà quelques années, donc 3 ou 4 ans. Moi j'ai rejoint l'aventure au mois de novembre, où actuellement je suis en alternance avec la comédienne Mélanie Gillery. Et donc du coup j'ai travaillé déjà par observation et lecture avec eux, qui étaient déjà sur la pièce et qui jouaient déjà.
D'accord.
Et ensuite c'est un travail personnel qui s'est fait, et puis bon, chaque comédien, comédienne a sa personnalité, a sa vision, sa version du personnage. Et donc pour l'instant, ça se passe très très bien. D'ailleurs, ce week-end, nous avons joué à Marseille. Et la semaine prochaine, c'est mon alternance qui joue à Marseille.
Ah d'accord.
Donc voilà, on s'arrange entre nous. On essaie que tout le monde puisse jouer, puisse s'arranger.
Et que le public aussi profite, résultat, de deux versions. Même
exactement,
si c'est a priori la même patte. Hein. C'est pour profiter aussi des deux personnalités des comédiennes.
Hein. Exactement.
Bon, bah, très bien. Bah, alors moi, malheureusement, hein, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce spectacle. Il va jouer tout l'été.
Il va jouer tout l'été, donc voilà, tous les lundis soirs à 21h à partir du 11 juin.
D'accord, très bien. Et donc, pourquoi pas, alors, une joyeuse fin du monde, après tout, pourquoi on verrait toujours la fin du monde comme catastrophique?
Exactement, là c'est la version post-apocalyptique, qu'est-ce qui reste de l'humanité et comment on peut survivre à ça et se soutenir?
Eh bien alors, je vous invite à aller le voir, c'est au Théâtre Blanc-Manteau, et donc joué avec Mélanie Bellamy et en alternance avec Mélanie Gillery, ainsi que Ismaël Isma qui lui a mis en scène le spectacle avec Michael Lyon, si je ne me trompe pas.
Exactement, d'ailleurs je lui passe un petit coucou, qui se prépare pour retourner à Marseille ce week-end.
Et on retrouve les informations sur le site du Blanc-Manteau. On va écouter maintenant un extrait italienne scène et orchestre. Je vous en explique tout à l'heure, tout de suite, hein, le pourquoi du comment.
La chambre de Violetta, le plateau du théâtre, rien, un canapé. Un canapé. Je ne suis pas fou du canapé, hein. Je ne suis pas fou du canapé. On voit des gens qui regardent
par la fenêtre.
Non, non, il n'y aura pas de fenêtre. Il y a déjà un canapé, il n'y aura pas de fenêtre. Et je le dis pour tout le monde, si tout va bien, ça devrait pouvoir ressembler... un cauchemar!
D'accord, comme ça c'est clair.
Allez! On y va! Je ne suis pas fou de ce canapé.
Je vais vous faire la guerre.
Je pathétise. Vous m'avez dit trop mécanique, j'ai commencé à mécaniser.
Vous pouvez rester en place, s'il vous plaît?
Oui, mon adjudant!
Vous êtes d'une ponctualité exceptionnelle. Ça tombe bien, il nous reste 12 jours.
Sacrée tension, ouf. C'est normal qu'ils soient un peu tendus, on est très en retard.
Moi je sais plus pourquoi je suis...
Oui bah ça se voit, Maréva.
Vous ne vous rappelez pas ce qu'on s'est raconté sur la chute?
Eh ben, c'est une chute, hein?
C'est de la poésie! Comportez-vous comme des poètes!
Mais qu'est-ce que ça fait que c'est ce verre? Mais c'est quoi ce verre d'or? Et je suis pas fou de ce canapé!
Ah oui, c'est énorme!
Faut bosser, hein?
En silence! Pourquoi est-ce que vous souriez tout le temps?
Nous faisons cette folie de travailler sur une œuvre considérable avec un rôle central absolument écrasant dans l'absence absolument écrasante de son interprète principal qui n'est pas là.
Excusez-moi, elle n'est pas là, Madame Preston.
Qui ne pourra pas dire qu'elle aurait été là.
Là voilà, oh,
les fleurs. Ah, les fleurs. On passe le tulle.
Non, 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 non,
on reste comme ça entre nous dans le travail. Elle n'est pas là.
Si je suis dans la salle, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
On a plus de présenter de proposer.
Oh non, je pensais que c'était pris, c'est pas lui.
J'aimais mieux ma vieille place.
Dis donc, Alexandre, mais quand même. Alors, non.
Quel nightmare, Maïra.
Tu fais que je te repartage.
Mais regarde ton gueule, Rita.
Moi, j'ai dit, crève, crève reconductible.
Ah là là, c'est marqué, c'est marqué.
D'entendre la bande-annonce du spectacle italienne Scène et Orchestre de Jean-François Sivadier. Et oui, parce que on ne passe pas non plus tout l'été à Avignon, heureusement, et ça bouge quand même à Paris, ça continue, en tout cas la MC 93 va être ouvert jusqu'au 28 juillet et accueille Italienne Scène et Orchestre à partir du 9 juillet Jean-François Sivadier. Alors, comment vous dire pourquoi je vous parle de tout ça? C'est un spectacle dont j'ai entendu parler pendant longtemps, que je n'ai jamais vu. Et tous les spectateurs sont dithyrambiques quand ils en parlent, parce que, en gros, on assiste aux répétitions de la Traviata, l'un des opéras les plus connus de Verdi, et on va avoir des problématiques du théâtre en abîme, hein, le théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire qu'un metteur en scène, un chef d'orchestre, avec un metteur en scène qui veut ouvrir, adresser la représentation à un large public, un chef d'orchestre qui, lui, de son côté, va avoir l'exigence absolu. Et donc, résultat, le spectateur, lui, devient complètement protagoniste d'un travail de répétition et puis un témoin acteur en même temps de ces répétitions-là. Donc, c'est totalement délirant. Moi, j'ai eu l'occasion là, de faire la pré-saison, la présentation de saison à la MC 93. Ils étaient en train de répéter, ça tournait autour du théâtre. Voilà, moi, je pense que je vais essayer de rentrer un peu plus tôt d'Avignon pour aller voir ce spectacle. Non, mais c'est vraiment l'occasion, hein, là, pour le coup, c'est des spectacles effectivement qui ont déjà été joués, qui ont déjà été créés, mais qui ont eu un énorme succès. Et donc, pour la génération qui ne les a pas vus, moi je remercie Hortense Archambault d'avoir ce clin d'œil-là pour nous. J'en profite aussi pour parler de La Fabrique des Monstres, ou Des Mesures pour Mesure, de Jean-François Perret, qui là se joue du 8 au 13 juin, toujours à la MC 93. Je vous en parle parce que il y a Jacques Bonafé, moi c'est un acteur que je suis depuis longtemps, que je trouve très très bon, j'avais eu l'occasion de rencontrer pour Nature aime à se cacher, où il travaillait déjà sur le côté animalité. Alors La Fabrique des Monstres, c'est sur les traces de Marie Shelley, c'est-à-dire celle qui a écrit Frankenstein à 19 ans, et alors on reprend pas Frankenstein, mais on part du principe de l'homme monstre, et donc voilà, c'est le petit clin d'œil pour que après il y a Jeanne Balimbard, il y a des très bons acteurs aussi dans la distribution, mais je pense que Jacques Bonafé c'est une très bonne idée de l'avoir distribué dans ce genre de travail là parce qu'il a une interprétation très physique de ces personnages. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir, c'est à 20h30 jusqu'au 13 juin à la MC 93. Et puis je voudrais donner la parole à Claire Herbert, bonjour. Qui est allée à l'Odéon et qui va nous parler aussi d'un spectacle qui va a priori se jouer à Avignon aussi.
Alors plus précisément, je vais vous parler d'une metteuse en scène belge, plutôt Anne-Cécile Vandalem,
qui a présenté sa création Tristesse à l'Odéon, qui joue encore, il me semble, enfin il faut vérifier. Et elle présente, donc c'est, elle avait déjà fait un grand succès avec Tristesse en 2016 à Avignon, et elle représente cette année Arctique, donc qui est une autre pièce que je n'ai pas vue. Je vais vous parler de Tristesse aujourd'hui. Elle est dans la lignée des grands thrillers nordiques, donc des ambiances très lourdes, mais passionnément lourdes. Et elle allie à la fois tout ce qui est audiovisuel et théâtre. Mmh. Et donc, nous sommes au Danemark, dans une petite île complètement abandonnée, qui était autrefois le lieu des boucheries. Enfin, il y avait des boucheries qui mettaient en place, et il y avait a priori 800 personnes sur cette île. Et après la fermeture de ces boucheries, il n'en restait plus que 8. Donc ça se situe sur une année de 10 ans, enfin des années de décennies. Et la femme, une des femmes se tue, elle se suicide avec le drapeau danois en haut du mât. Donc c'est d'une symbolique très violente et très rude. Et on apprend que sa fille est en fait le membre, c'est l'élément le plus éminent du membre ex-fasciste de la Danemark. Et okay. Donc je dis, c'est très lourd, c'est très très lourd. Et il se trouve que cette femme revient sur l'île pour aller enterrer sa mère, et elle retrouve les 8 personnes qui vivent sur cette île, qui sont le maire, sa famille, la famille du maire, un prêtre avec sa femme, et le père de cette femme. Et évidemment, il y a Anguille Souroche. Si elle revient, c'est qu'il y a eu un souci, c'est qu'il y a eu une problématique en amont. Et c'est la résolution ou non de ce problème. Voilà.
D'accord.
Donc c'est passionnant.
Ah, ok. Donc malgré un sujet très lourd, passionnant.
Parce qu'il y a une grande distance. Donc malgré tout ce qui se passe, on observe avec beaucoup d'humour la façon dont cette société se détruit elle-même. Il n'y a aucun parti pris. Les personnages ne sont pas caricaturaux, mais... jamais il n'y a d'identification avec ces personnages, donc c'est pas possible. Donc on les regarde avec un œil très distant, et ce qui se joue devient passionnant, au sens politique, au sens philosophique du terme. Et avec toute l'utilisation de l'audiovisuel qui distance l'espace public de l'espace intérieur, et tout ce qui se passe dans l'enceinte de la maison et ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Donc il y a un jeu très intéressant entre ce qui est et ce qui ne se dit pas.
D'accord, ouais, ça a l'air quand même plutôt intéressant. Et on retrouvera, tu disais, cette metteur en scène,
oui,
à Avignon, dans le IN, alors.
C'est ça.
Alors j'en profite aussi, hein, parce que comme je vous disais, j'ai vu des présentations de saison, donc c'est l'occasion aussi de vous parler de la MC87, de continuer. J'en profite parce qu'il y a un spectacle qui va se jouer en janvier, et qui s'appelle « Il n'avait pas prévu qu'on allait gagner » de Jean-Louis Martinelli, avec un texte de Christine Sitti, si je ne me trompe pas, qui va être joué. Donc, enfin, il y a déjà eu quelques lectures, hein, c'est vraiment une création. Et j'en profite parce qu'on a une des comédiennes qui est autour de la table, Yasmine.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail avec Jean-Louis Martinelli qui sera à la MC 93?
Oui, alors en fait, le point de départ de ce travail-là, c'est Jean-Louis et Christine qui sont allés dans un foyer. Et donc, ils sont allés rencontrer des jeunes qui étaient dans ce foyer d'urgence. Donc en fait, ces jeunes-là, ils restent pendant un moment, mais c'est juste un moment de passage en fait. Ils ne sont pas destinés à rester là pendant un an ou deux ans. Et donc, à l'issue de cette rencontre-là avec les jeunes, Christine a écrit des textes qu'elle a tirés de cette réalité-là. Et Jean-Louis et Christine ont voulu en faire un projet commun et ont voulu surtout mettre en scène, enfin plutôt donner la voix, donner de la visibilité à ces personnes auxquels on ne donne jamais la parole. Et donc on a fait des lectures. C'était pas censé être une mise en scène, mais on a fait une lecture à la MC93. Et Hortense Archambault, qui est la directrice de la MC93, a beaucoup aimé ce projet-là. Et donc c'est parti de là. Et elle a proposé à Jean-Louis de le mettre en scène et de produire le spectacle.
Et pour vous, en tant que comédienne, appréhender ce genre de personnage-là,
Ça me touche beaucoup de... C'est pas dans un esprit de revendication, mais c'est plus dans un esprit de donner la voix à ceux qu'on n'écoute pas, à ceux qui n'ont pas justement accès à cette visibilité-là. Et c'est pour un premier projet professionnel, ça me fait très très plaisir de m'impliquer, de m'investir et de m'engager dans ce projet-là.
Oui, je comprends. On aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici janvier. Oui. Merci, Yasmine.
Plaisir. Merci.
On en profite. On va écouter maintenant, retrouver Nick, qui, comme je vous le disais, est allé à la rencontre de Laurence Equilbé pour La Nonne Sanglante, qui se joue à l'Opéra Comique jusqu'au 4 juin.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière création de l'Opéra Comique. Donc, cette nouvelle production de La Nonne Sanglante a été montée par l'Opéra Comique sous la baguette de Laurence Equilibé et mise en scène par David Bobet. En fait, la dramaturgie est partagée entre David et Laurence. Et j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Laurence jeudi dernier dans ses loges, juste avant d'aller sur scène pour cette générale et lui poser des questions sur cet opéra. Voilà. Bonjour Laurence Equilbé.
Bonjour.
Et puis merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Avec plaisir.
Alors pourquoi cet opéra ?
Écoutez, ça fait longtemps que je suis en conversation avec Olivier Monteilly sur des ouvrages pour l'opéra comique. Et puis donc, je voulais un projet un peu profond, qui est plus romantique. Et du coup, on a pensé à cette Nonne Sanglante qui avait eu un énorme succès, même si elle a été retirée de l'affiche un peu plus tôt parce qu'il y a un directeur qui a été nommé qui n'aimait pas la programmation de l'ancien et donc il a dit que c'était une ordure cette œuvre. Et comme la musique, les trois quarts de la musique sont somptueux et que le livret est assez palpitant si on prend l'angle un peu psychanalytique ou gothique, on s'est jeté dans cette aventure.
Et comment on s'y prend pour remonter une œuvre qui a été créée pour la dernière fois en 1854 ?
On a quand même un manuscrit qui existe. Et puis surtout, on a aussi la chance qu'il y ait eu une production autrichienne qui a repris ça en 2008. C'était quand même déjà intéressant d'entendre un peu l'ambiance dramatique de cette œuvre. Et voilà, et du coup, on s'est jeté là-dedans avec David Bobet, le metteur en scène, qui est quelqu'un qui a un visuel très fort. Moi, je cherchais quelqu'un qui avait un visuel très fort parce que dans cet univers, un peu, il y a cette culture, un peu des films des années 60, de Mario Bava, Dario Argento. Il y a une esthétique très populaire. Et non pas qu'il fallait s'en inspirer, mais il fallait que ça résonne avec cette culture qui est très populaire aujourd'hui. Et du coup, David Bobet est vraiment la bonne personne pour ça. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de scientifiques, une historienne qui s'appelle Martine Lavaux, grande spécialiste du romantisme noir. J'ai aussi travaillé beaucoup avec François Angelier, qui a une émission qui s'appelle Mauvais Genre sur France Culture, un grand spécialiste de tout cet univers de films d'horreur et du mythe de la nonne, de fantasme de la nonne. Ça, il est un grand spécialiste. Et aussi avec une psychanalyste qui s'appelle Annaëlle Leibovitz-Kinéen. David avait aussi ses propres équipes et on a vraiment fait un chemin ensemble sur une dramaturgie commune et c'était très très intéressant.
Et vous avez créé il y a quelques temps maintenant aussi un orchestre.
Oui, oui.
On vous connaît avec votre chœur Accentus.
Oui.
J'ai d'ailleurs passé des extraits à la radio du disque.
Ah, d'accord.
Des acapella recordings qui sont somptueux.
Merci beaucoup.
Et donc cet orchestre que vous avez créé, vous jouez sur les instruments d'époque, on peut
oui,
dire.
Oui, tout à fait, absolument.
Et donc quelle est la différence pour nos auditeurs ?
Alors les instruments d'époque, ça dépend quelle époque, mais par exemple pour l'époque de Mozart, parce que c'est une époque qu'on connaît bien. Les cordes ont des boyaux à la place d'avoir des cordes en métal qui fait un son un peu plus doux mais surtout plus facile à sculpter. En fait, on peut faire une calligraphie un tout petit peu plus raffinée, peut-être moins de puissance mais plus de finesse. Et les timbales sont en peau au lieu d'être en plastique, donc ça donne pas tout à fait le même son. Et ce qui est le plus spectaculaire, c'est plutôt les cuivres qui sont dits naturels parce qu'ils n'ont pas de piston et donc ils ont des sonorités un peu plus boisées qui s'accordent mieux d'ailleurs avec les bois de l'orchestre que sont les clarinettes, le bois. Voilà, les instruments qui se rapprochent le plus seraient peut-être justement ces fameux bois, mais les cuivres naturels du coup créent des balances plus faciles. Et ça donne, je pense, une juvénilité à cette musique, ces sonorités. Alors là, pour Gounod, c'est encore un instrumentarium qui est plus proche de celui qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'il y a quand même des différences, et c'est très très intéressant d'entendre cette musique. Ça donne un côté un peu plus fragile, mais un peu plus frotté, un peu plus contemporain, je dirais.
J'ai vu aussi que la partition, je crois, a été mise à disposition par la Palazzetto Bruzzane. Quel est le rôle de cette centre dans le...
C'est une fondation Bruzzane qui est vraiment qui soutient essentiellement le romantisme français, donc c'est une grande chance pour nous. L'année prochaine, c'est l'année 500, je crois. Enfin, et à chaque fois, ils ont des focus, mais ils aident aussi beaucoup à découvrir des compositeurs beaucoup moins joués. Donc, ça va être le cas notamment de compositrices comme Clémence de Grandval ou Lily Boulanger. Voilà, donc ils font un travail assez considérable, y compris dans la musique de chambre.
Et justement, vous avez évoqué un petit peu des compositrices. Oui. Qui sont renouvelés. J'hésite un peu à vous poser la question parce que ça doit être la question qu'on vous pose à chaque fois. Comment c'est d'être une femme chef d'orchestre en France en 2018 ?
Moi, ça va parce que j'ai la chance d'avoir quand même un trajet vraiment intéressant et j'ai du travail et ça va bien. Je pense que je me bats beaucoup, je me suis beaucoup battue avec la SACD qui est une société d'auteurs et d'ailleurs on a abouti à une très belle feuille de route au ministère de la Culture pour l'avenir de la présence des femmes dans la culture. Donc il devrait y avoir des objectifs chiffrés dans les prochaines saisons, dans les grandes maisons, dans les grands festivals, et aussi toute une série de mesures qui font qu'il y aura sans doute une plus grande égalité d'accès aux moyens de production pour les artistes femmes. Donc pour ça, c'est très important pour moi. Puis, pour les compositrices, j'essaie moi-même d'en programmer souvent. Là, on vient de faire la 3e symphonie de Louis Farin, qui est vraiment magnifique. On devrait faire le concerto de Clara Schumann bientôt. J'aimerais bien enregistrer les Farin un jour. Voilà, on va faire du Fanny Mendelssohn. Enfin, Accentus va faire avec un de mes chefs associés, Christophe Grapron, va faire justement Clémence de Grandval et Lily Boulanger. On va faire un disque ensuite de ça, de ces raretés françaises. Voilà. Alors, on peut pas mettre à parité les compositrices, c'est absurde, mais on pourrait pas le faire. Mais à la fois dans le patrimoine, mais par contre dans la création, ça, on peut le faire. Donc, dans la création, on fait beaucoup de commandes à des femmes compositrices. Voilà, moi, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et je m'en occupe discrètement à mon niveau.
Et du coup, toutes ces compositrices et ces œuvres que vous venez de citer, on va les retrouver et les mettre en lien pour nos auditeurs qui seraient peut-être curieux de découvrir ces œuvres, au moins les liens qui permettent de découvrir ce travail, on peut dire peut-être méconnu à ce jour.
Tout à fait. Bah, par exemple, moi, je vous recommande d'écouter la 3e symphonie de Farin qui est en ligne, je crois, en streaming pour quelques mois, et c'est vraiment une œuvre géniale, hein, donc qui a tout à fait sa place dans le grand répertoire symphonique.
Écoutez, on ne va pas prendre plus de votre temps, parce que d'ici 50 minutes, vous allez diriger l'ouverture de l'opéra. On va vous laisser tranquille pour vous préparer dans les loges, mais merci beaucoup pour
c'est
ce temps ensemble.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, juste après, j'ai eu le plaisir de voir ce spectacle. Alors, quoi dire ? D'abord, le fait que l'opéra soit joué sur des instruments d'époque, ça change réellement quelque chose. C'est que le son est moins fort, mais moins fort dans un sens transparent. Et donc, si vous allez voir cet opéra, et je vous encourage à aller le voir, vous allez découvrir pour la première fois un opéra où on entend vraiment tous les voix. Et on va entendre tout le texte en français sans devoir regarder les sous-titres. On assiste à un décor tout en noir et en argent, avec un thème gothique mais plus moderne, très attrayant. Il y a de très belles choses dans la mise en scène, et notamment pendant l'ouverture, une scène de bataille qui se compose progressivement, une espèce de pluie noire qui tombe sur un sol aussi, on dirait d'onyx noir. Tout est très très stylisé. La voix de Michael Spears, que j'ai entendue pour la première fois en direct, est tout simplement extraordinaire. C'est un jeune ténor américain, enfin jeune, il a 38 ans, mais avec une voix qui est quelque part entre Domingo et Pavarotti, et on va peut-être pouvoir écouter un peu plus tard un extrait de sa voix. Alors cette voix, c'est exceptionnel. L'opéra a dû s'interrompre pendant 30 bonnes secondes, pendant que le public l'applaudissait tout simplement après l'un des numéros dans le troisième acte. Je saluerai par ailleurs d'autres performances particulièrement remarquables, notamment Jodie DeVos, qui joue le rôle masculin d'un jeune page, qui est drôle, qui chante avec facilité des choses, des parties vraiment de virtuoses, et également Vanina Santoni, qui chante le rôle d'Agnès, une superbe, de nouveau une rôle dramatique difficile et vraiment vraiment très très bien exécuté. Et si vous avez envie de découvrir donc un œuvre du jeune Charles Gounod, oublié mais bien intéressant, avec une mise en scène assez passionnante, Et surtout, découvrir ce que c'était l'opéra gothique du milieu du 19e, je vous conseille chaleureusement d'aller voir cette production qui se joue donc à l'Opéra Comique de Paris jusqu'au 14 juin. Pour finir, je vais vous passer un extrait enregistré dans les répétitions à l'Opéra Comique de La Nonne Sanglante de Charles Gounod, sous la baguette de Laurence Equilbé.
Ainsi que l'indiqué, les joies de Fontaine, voici bien Yard, la langue si vulgaire. Et la tâche de sang qui souille son long voile blanc. Allons, allons.
Vous venez d'entendre un extrait du spectacle La Nonne Sanglante qui se joue à l'Opéra Comique jusqu'au 4 juin. Et nous allons écouter un extrait de Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet avec la voix dont nous parlait Nick du ténor Michael Speyer.
Oh,
Vous êtes sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM, et vous écoutez l'émission Plein Phare qui touche à sa fin. Merci Annick pour ce spectacle, donc la nonne sanglante qui se joue à l'Opéra Comique. Alors on va se quitter sur Equinox, hein, qui est une musique de Coltrane. J'ai tendance à vous parler de ce film Chasing Train, qui retrace la vie légendaire de ce saxophoniste. Je vous conseille, enfin il est sorti il y a maintenant quelques, je crois que c'était déjà l'année dernière, mais je vous conseille vraiment de voir ce documentaire qui a été multiprimé et qui reparle, enfin qui nous fait comprendre l'œuvre de cet avant-gardiste et de ses secrets. Voilà, donc nous on se quitte. On remercie Incarné d'être venu nous parler du spectacle Le Loup des Steppes, donc qui se joue à Avignon, mais pas que, hein, Avignon off Théâtre des Remparts, mais aussi.
Eh ben avant on sera au Atome Festival.
Voilà.
Et après on sera à Château Perché.
Alors n'hésitez pas à passer sur notre Facebook pour voir. Le site de ce collectif Incarné. Je remercie aussi Mélanie Bellamy pour nous avoir parlé du spectacle qui se joue au Théâtre des Blancs-Manteaux, Joyeuse Fin du Monde.
Merci beaucoup et puis on vous attend nombreux.
Et on n'hésitera pas à vous reparler des spectacles dont on a parlé. Un grand merci aux étudiants du Conservatoire Régional d'Aubervilliers de leur présence aujourd'hui. Et comme je vous dis, on vous quitte sur Equinox de Coltrane. Merci beaucoup. Et d'ici là, sortez, sortez, sortez!
Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas un agenda. C'est plutôt une mission, un engagement.
Il faut forcer les gens à venir dans la rue, se rendre compte justement par eux-mêmes et qui regardent justement tous les médias indépendants.
Parce que vous avez vous aussi envie d'avoir un agenda.
Évidemment, évidemment, évidemment.
Allô, allô, la Terre, il est midi, c'est l'heure de l'agenda sur FPP. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, l'agenda est l'émission qui relaie les rendez-vous culturels et